Interview. 1. Interview.
Ok, de bord.
L'interview du jour.
Bonjour, ici Erdiwa pour l'interview, émission que vous pouvez écouter sur le site internet www.rdwa.fr. Aujourd'hui, autour du studio, nous sommes avec Gaëtan Dorémus. Bonjour.
Bonjour.
Gaëtan, vous êtes membre du collectif Gare à nous qui s'est récemment constitué.
C'est ça.
À vos côtés, Jean-Pierre Rambaud, membre du Parti communiste français. Bonjour.
Bonjour.
Ensuite, Lucille Stahl, membre aussi du collectif Gare à nous.
Voilà, bonjour.
Bonjour. Vous êtes autour de la table pour nous parler d'une manifestation, principalement, qui aura lieu demain, donc vendredi 6 à la gare de Die, à partir de 18h.
Le collectif Gare à nous s'est constitué il y a peu et propose effectivement cette première soirée de mobilisation autour de la gare et de la ligne de Die, la ligne de vie. Il s'est constitué un peu dans l'urgence puisqu'il y a des bruits qui courent comme quoi le guichet de la gare serait menacé, et puis de toute façon la ligne aussi, on sait qu'elle est en très mauvais état et qu'elle est elle aussi menacée, donc on s'est dit qu'il était plus que temps de recréer du mouvement autour de cette question. Donc voilà, c'est un premier rendez-vous. Malheureusement, je pense qu'il y en aura beaucoup d'autres, puisque cette question ne va pas être réglée en une seule soirée dans la gare de Die. Et donc on a essayé de se constituer déjà en collectif, d'avoir un diagnostic commun aux quelques personnes qui étaient intéressées par le sujet, et puis après surtout d'inviter au maximum tous les gens qui se sentent concernés par le sujet, qu'ils soient des institutions, des partis politiques ou des simples citoyens, à venir causer vendredi soir.
Il y a une rumeur qui vogue depuis quelque temps sur le Diwa concernant l'avenir de la gare. Et aussi, on peut y discerner une certaine confusion dans les médias, à savoir fermeture ou pas, avec des réponses qui laissent plutôt pantois.
Alors pour l'instant, en fait, les éléments dont on dispose, c'est que la personne qui est affectée au guichet de la gare de Die, donc serait amenée à aller exercer son métier ailleurs. Donc le guichet en tant que tel ne fermerait pas, mais il serait assuré par les agents de circulation dont le métier n'est pas de vendre des tickets, et dont le métier est d'assurer la sécurité de la gare. Et donc il se pourrait que ces personnes ne soient pas disponibles totalement pour assurer la vente des tickets et l'information des voyageurs. Voilà le problème qui se pose. Donc c'est le début d'un démantèlement, en fait. Enfin, c'est comme ça qu'on le vit et qu'on le ressent. La SNCF indique qu'il s'agit simplement d'une réorganisation. On ne connaît pas non plus les horaires d'ouverture de ce guichet nouvelle forme.
Jean-Pierre Rambaud.
Moi, je voudrais d'abord me réjouir de la création du collectif. Bon, nous avons lancé cette affaire, hein, mais nous n'en sommes pas propriétaires. Et avoir un collectif, c'est effectivement regrouper des forces. On en sait quelque chose avec le collectif de défense de l'hôpital de Die, et puis d'autres collectifs qui existent, par exemple pour la SNCF, l'Étoile de Veynes. Donc nous avons intérêt à unir nos forces, chacun dans sa diversité, bien évidemment, mais en même temps avec un but commun, duquel nous ne nous égarerons pas quant à nous. Ce qui sera décidé par le collectif le sera par le collectif. Et nous n'interférerons pas sur ce qu'aura dit le collectif. Mais par contre, si nous avons à nous exprimer, nous nous exprimerons. Donc je me réjouis de la création de ce collectif. Alors pourquoi la gare de Die risque de fermer? Ou plutôt risque de fermer à partir du 1er juin. D'abord, parce que on nous parle de réorganisation, et nous aimons bien savoir ce qu'il y a derrière ce mot de réorganisation. Donc c'est clair, il y a actuellement 3 agents. La guichetière qui est de statut SNCF, et les 2 agents de sécurité qui sont de statut de droit privé. Et on en enlèverait un. Donc il ne faut pas parler de réorganisation. Il ne resterait plus que les agents de sécurité. L'agent de sécurité étant tout seul, il ne peut pas faire 24 heures sur 24. Donc il a ses missions, il n'a pas la même formation. Et j'ai discuté avec lui et il m'a dit très tranquillement, nous, ce n'est pas notre métier, le guichet. Donc la guichetière était là pour donner des informations au plus près de l'usager. Voilà le problème tel qu'il est. Mais je l'élargirai, moi, et peut-être que nous y reviendrons, à l'ensemble de la ligne SNCF Livron-Van.
Ou à l'ensemble de la SNCF même.
L'autre perspective à moyen terme aussi serait peut-être la fermeture envisagée de la gare en 2020 si la ligne n'a pas été remise en état. Pourtant, il me semble qu'il y a quelques années, il y a déjà eu une mise en état des rails. Depuis Vercheny, il y a eu des fermetures de lignes pendant pas mal de mois. C'en est tout, cette mise à niveau?
Oui, alors il y a eu un travail important de fait. Il y a très longtemps que des travaux n'étaient pas faits sur cette portion de ligne dite Livron. Et il était prévu d'en faire d'autres en amont de Die, ce qui intéressait aussi beaucoup les Hautes-Alpes, forcément. Et donc, ces travaux sont reportés. Donc c'est pour nous absolument inquiétant, de même que pour la région PACA. Puisqu'ils ont tous les trains qui passent par ici. Enfin, une partie passe par Luce-la-Croix-Haute. Je voudrais ajouter quand même une chose à propos des gares. J'ai eu, de la part de la CGT, une pétition, et je vais en donner d'ailleurs connaissance en partie, qui a recueilli 339 signatures, une pétition papier, et ils disent que, après les fermetures des gares de Loriol et Chasse-sur-Rhône, l'ouverture alternée des gares de Livron, La Voulte, sur Rhône, Saint-Vallier, Saint-Clair-les-Roches, l'ouverture seulement le matin de la gare du péage de Roussillon et l'abandon de la boutique d'Aubenas au privé, c'est maintenant le guichet de Die qui est supprimé. Voilà, donc nous ne sommes pas les seuls. Et j'ajouterai Luce-la-Croix-Haute, bien évidemment. Mmh. J'ai vu également une intervention, un courrier du député du Puy-de-Dôme, André Chassaigne, à propos de la gare de Thiers, qui n'est pas une petite gare. Donc on voit bien que c'est un ensemble qui est organisé.
Et peut-être même un ensemble encore plus général sur les services publics en milieu rural, puisqu'on on a vécu dans le Diwa, d'ailleurs très mal, la fermeture de la maternité et de la chirurgie. La poste est menacée, on n'a plus le droit maintenant aux emplois aidés qui permettaient aux écoles, aux associations de fonctionner correctement. Enfin voilà, il commence à y avoir une accumulation d'éléments qui fragilisent vraiment la vie en milieu rural et ça fait partie aussi du débat un peu plus général qu'on doit tenir tous ensemble.
Oui, j'ajouterais à ce propos que... il y a bien sûr la maternité et la chirurgie, et j'en sais quelque chose, mais si on fait un petit peu le tour de ce qui a été supprimé, il y a eu le tribunal de commerce, il y a eu le district EDF, lorsque les usagers avaient un problème, ils allaient là-bas et il était réglé. Lorsqu'un artisan voulait un compteur provisoire, il l'avait dans les quelques jours. Maintenant, il faut attendre près d'un mois. On est en train d'éloigner de l'usager les services publics et même de les fermer, comme je viens de l'expliquer maintenant, ce qui est très très grave pour l'aménagement du territoire et pour la ville de Die, parce que tout cela a des répercussions, y compris sur le lycée, par exemple, sur le centre du Martouret, le lycée à cause de la section sport nature, le Martouret... parce qu'ils utilisent fréquemment le Paris-Briançon. Vous voyez que tout est lié et que tout peut, je veux dire, se détériorer encore plus tout d'un coup, parce que c'est comme un château de cartes, quand on en enlève une, tout s'écroule.
Et une question que je me pose, c'est est-ce que lors de vos concertations, vous réfléchissez à cette, cette démarche de l'État de se retirer et de retirer les structures au niveau du Diwa, est-ce que vous avez une idée là-dessus, vers quoi le Diwa se dirige?
Alors, l'État, malheureusement, il est pas, il concentre pas ses flèches que sur le Diwa. Ça serait, sinon, à la limite, on aurait peut-être plus un élan de solidarité possible. C'est partout, en fait. Hein. On voit que c'est une attaque en règle contre tout ce qui est de l'ordre du bien commun, donc les services publics. Et effectivement, au milieu rural, c'est beaucoup plus vital et ça se voit beaucoup plus vite. Et nous, là, on se bat pour un train de qualité et de services publics dans cette perspective. C'est le même monde qui attaque les universités, le Diwa et qui le fragilise. C'est la même logique, la justice. Voilà, enfin, on pourrait faire une liste de 15 km, on y serait encore jusqu'à 23 heures, malheureusement. Donc nous, on se place de ce point de vue-là, et on pense aussi, alors qu'on est, par exemple, sur la problématique des transports, à un moment où il faudrait que les services publics soient transformés radicalement et bien plus efficients. Et on voit qu'on est en train de les massacrer, alors qu'il y a une urgence sociale et une urgence écologique à les faire fonctionner beaucoup mieux et de manière beaucoup plus horizontale.
Les propriétaires de ces lignes menacées sont l'État ou alors la région ?
Le propriétaire des lignes, c'est l'État.
Et enfin, la gestion ?
C'est la SNCF. Jusque-là, il y avait RFF, puisqu'ils en avaient fait deux entités. Et puis RFF a été supprimé et c'est devenu une partie de la SNCF. Mais c'est la SNCF. Et la SNCF a un seul propriétaire, qui est l'État.
En fait, ce qui est en jeu, c'est effectivement dans le projet de privatisation qui est le contexte dans lequel on se bat pour la gare, hein, c'est effectivement la privatisation rampante de la SNCF, donc qui est coupé entre SNCF Mobilité ex-RFF, non, SNCF Réseau,
ouais,
et SNCF Mobilité. Et bien sûr que la SNCF Réseau, dans une logique néolibérale, c'est pas rentable. Les rails, c'est pas rentable. La SNCF n'a jamais été rentable. Le but n'est pas qu'elle soit rentable. Le but est qu'elle rende des services et que c'est un usage de biens communs et collectifs. Par contre, si on se met à calculer toutes les externalités positives, si on parle d'un langage économique, tous les services qu'ont rendus le train depuis que le train existe, c'est incommensurable. Donc en fait, on peut pas raisonner en termes de rentable par rentable quand c'est l'État qui nous dit que la SNCF coûte trop cher et que donc, pour faire des économies, on va supprimer 120 lignes de proximité, puisque c'est ça le contexte dans lequel on se bat pour les lignes. Les lignes TGV et les lignes rentables pourront, dans leur logique, pourraient être vendues au privé. Mais la nôtre, est-ce qu'elle est rentable de leur point de vue? J'en suis pas du tout sûr.
Et la région, pour le moment, quel est son rôle autour du transport, justement, régional?
Elle est organisatrice de transport. Voilà.
Elle est commanditaire de lignes.
Voilà.
Mais elle n'en tient aucune gestion.
C'est ça. Et elle peut également faire appel au privé. En tout cas, elle le pourra d'ici après le 31 décembre de cette année.
Et puis, on pourrait aborder aussi la collectivité locale et avec, par exemple, la municipalité de Die. Quelles sont les inquiétudes de la municipalité ?
Peut-être, moi j'ai simplement noté dans le journal du Diwa que, alors pas pour la commune de Die, mais que la communauté des communes du Diwa a adopté une délibération au dernier conseil communautaire en soutien à cette ligne voilà, et à la défense du transport ferroviaire.
Mais les enjeux sont aussi d'ordre pratique, puisqu'il y a certainement des lycéens ou des collégiens qui utilisent ce mode de transport, et puis beaucoup de professionnels, certainement. Quelle sera l'alternance à ce type de transport, d'après vous, à part l'autocar ?
Vous savez, la SNCF a trouvé un drôle de moyen. Hein. Il y a trois élèves de Die qui allaient à Gap, donc tous les lundis matins, ils étaient internes, par le Paris-Briançon, et comme ils ont supprimé les arrêts intermédiaires, eh bien, ils ne peuvent plus, et la SNCF paye un taxi tous les lundis matins pour emmener ces trois élèves, alors qu'il n'y aurait qu'à faire un arrêt pour les laisser. C'est-à-dire que le train intercité n'existe plus. Hein, le Paris-Briançon, c'est où vous allez à Paris, ou vous allez à Briançon. Voilà. Ou vous venez de Paris, ou vous venez de Briançon. Mais entre-temps, ça n'existe pas.
Est-ce que vous connaissez à peu près le nombre d'usagers qui utilisent la gare de Die ?
Alors justement, il y a une enquête en cours qui est menée et qu'on va relier ici sur le DIWA par un autre collectif qui s'est créé à Cré. Et justement, l'idée est de faire un état des lieux des usages du train. Mais par contre, il y a des enquêtes nationales qui disent très clairement que dès qu'une ligne de train bascule sur bus, on perd déjà 30% des usagers. Et qu'ensuite, dès que le retard du bus est supérieur à 10% par rapport au trajet en train, on perd encore 10%. Donc en fait, on se rend compte qu'on perd à peu près la moitié des usagers dès qu'on passe au bus. Mais après, on a élu un président qui porte le nom d'autocar, hein, donc les autocars Macron. Ouais, donc il va pas défendre les lignes de proximité. Donc à la limite, on pouvait presque s'y attendre un petit peu. Enfin, c'était pas innocent, c'était pas juste une lubie d'un ministre de mettre des autocars. C'est vraiment il y a un projet, il y a une logique.
Je veux revenir sur la question précédente. Vous parliez de l'aménagement du territoire et pourquoi cette volonté de la part du gouvernement de le désertifier. Eh bien, il y a malheureusement, je dis malheureusement, et malgré toutes les déclarations qui sont faites hein, sur l'aménagement du territoire, l'idée qu'il ne faut pas disperser. Et donc, il faut regrouper. Et alors, il y a un regroupement autour des métropoles, les métropoles qui concentreront les crédits, et le reste sera littéralement abandonné. On avait un député, il y a très très longtemps, qui disait, et il était précurseur, après Cré, Dépin. PINS, bien sûr.
Et puis, bon, moi j'ajouterais aussi, de façon très générale, hein, que le train, symboliquement, c'est quand même aussi un outil de lutte contre le changement climatique. Et à l'heure actuelle, où les rapports scientifiques s'accumulent les uns après les autres sur la disparition de la biodiversité, l'élévation des niveaux de la mer, le réchauffement climatique, enfin le changement climatique, mais il est quand même de très très mauvais augure, alors qu'il faudrait prendre des mesures d'urgence de fermer ou de diminuer le service public ferroviaire.
Est-ce que l'État peut se permettre de vendre en privatisation une société qui est déficitaire, puisqu'elle est avide d'économie ?
C'est pour ça qu'il l'a coupé en morceaux. Le passage de la SNCF en société anonyme, c'est justement pour permettre ce genre de choses. Alors, l'État va se réfugier derrière des injonctions européennes, mais il peut décider, comme sur d'autres sujets, de dire non. Voilà. Donc c'est un choix politique. Hein, c'est de la croyance. Hein. Il y a la croyance qu'avec le privé, ça marchera mieux. Ça marchera mieux peut-être pour certaines choses, mais ça marchera plus du tout pour d'autres. Et voilà. Après, c'est un choix de modèle. Hein. On peut aller vers le modèle anglais, où le rail a été privatisé et maintenant... Il y a une majorité d'Anglais qui sont pour la renationalisation parce que c'est une catastrophe totale. Ou on peut aller vers un modèle suisse où on a mis des contraintes de services publics très très fortes et on a régionalisé. On peut dire ça, eux ils ne fonctionnent pas par région comme nous, mais ils ont décentralisé, on va dire, la gestion des toutes petites lignes et obligé à une interconnexion d'absolument tout le réseau. Donc nous, on en est très très loin, hein, puisqu'on est à une déconnexion du réseau. On construit même maintenant des gares TGV qui sont plus reliées à des lignes TER. Donc en fait, c'est vraiment un modèle territorial qui s'est construit en France depuis le début 90, avec l'arrivée des grandes lignes TGV, qui a complètement désorganisé tout le maillage de trains et les interconnexions entre toutes les lignes.
Alors, en interconnexion, quelles sont les gares qui vont être touchées en plus de 10, puisque ça va être comme un château de cartes, je suppose, où les dominos, on en enlève un et tout s'effondre. Est-ce que vous êtes en corrélation avec d'autres gares comme celle de Luc ou je ne sais pas s'il y en a une à Saillante. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi de leur côté, comme la vôtre ?
Il y a l'étoile de Vannes hein, qui coordonne un peu tout ce qui se passe sur la ligne. J'ai eu d'ailleurs un contact avec Robert Besson, qui est un des responsables de l'étoile de Vannes. Et eux sont là pour effectivement tenter de coordonner si possible. Il y a eu un appel qui a été proposé par l'étoile de Vannes et signé par une quarantaine d'organisations, dont également les syndicats CFDT, CGT, Sudrail, si j'ai bonne mémoire, et qui ont fait une déclaration commune, ce qui veut dire qu'ils ont élargi. Et effectivement, il faut poser le problème au niveau national. Ça n'est pas possible qu'on en reste à cette ligne, puisque je l'ai cité tout à l'heure des exemples, ça se passe partout pareil. Il y a réellement une volonté, en cassant le statut des cheminots, de casser la solidarité qui existait. Les cheminots, le statut de cheminot, il n'est pas fait que pour les cheminots. C'est une garantie aussi pour l'usager. Parce que le cheminot, il a une formation et il a le souci de l'usager. Et le souci de la voie. Il ne tient pas, le conducteur de train ne tient pas à ce que la voie soit en mauvais état. Hein, il veut pouvoir faire correctement son travail. Donc, on peut dire que la grève des cheminots et ce que veulent les usagers se recoupent. Alors qu'on est là à la télévision à nous montrer des gens qui pestent contre les grévistes, etc. Moins que les autres fois d'ailleurs. Hein, et on laisse la parole à ceux qui sont favorables. Mais il n'empêche qu'il y a une volonté d'aboutir à cette cassure entre une partie du territoire, les métropoles, et le reste des territoires ruraux.
Quel serait le coût d'une disparition de la gare de Die? Est-ce que la ville, existerait-il une alternance ou un autre mode de transport et qui serait pris en charge par la région, je suppose?
Le coût, c'est-à-dire le coût économique, le coût humain?
Le coût économique et humain, enfin oui, on peut voir toutes les possibilités.
Le coût est faramineux, c'est-à-dire que là, la ligne, elle existe depuis, elle est rentabilisée depuis bien longtemps. Il faut l'entretenir, mais elle est payée. Les ponts ont été construits, les tunnels ont été construits. Elle coûte rien. Ce qui est déficitaire dans la SNCF, c'est les lignes TGV, hein, c'est pas les lignes de proximité. Donc le coût de rajouter des trains sur une ligne qui fonctionne, c'est pas grand-chose par rapport au coût. Si par exemple on met tous ces gens-là dans leur voiture individuelle ou dans des bus, sachant que dans le train, on peut calculer tous les coûts, c'est assez facile. Sur route, c'est très compliqué. Il faut calculer l'emprise des terrains quand on construit des routes, l'utilisation de la marée chaussée pour gérer la circulation, les ronds-points, ce que ça coûte en termes de santé, puisqu'il y a des accidents et il y a de la pollution et donc il y a des maladies. Enfin voilà, il y a des coûts externes qui sont assez faramineux. Et en ça, le train est beaucoup plus compétitif sur tous les points que tous les autres modes de transport.
D'ailleurs, peut-être aussi un autre point sur le caractère assez essentiel aussi du train. Donc moi, je suis aussi membre du collectif Vélo. Et en fait, depuis un an maintenant, les vélos sont interdits dans les bus. Donc on ne peut plus mettre le vélo dans le bus pour aller à Valence ou de l'autre côté. Alors que le train, lui, a toujours eu vocation et continuera à pouvoir prendre des vélos à bord. Ce qui favorise, encore une fois, la multimodalité et puis la lutte contre le changement climatique.
Alors, je voudrais simplement dire, pour répondre à votre question, qu'il ne faut pas faire l'impasse sur la dette. La SNCF a une dette de 50 milliards d'euros et qui va encore s'aggraver. Pourquoi ? Parce qu'on lui a laissé payer non seulement les lignes, mais les TGV, par exemple. Ça a coûté extrêmement cher. Et donc, depuis bien longtemps, nous demandons que l'État reprenne la dette de la SNCF. C'est une infrastructure, donc c'est du rôle de l'État. Cette dette, d'ailleurs, elle existe dans tous les pays. Prenons les trois pays les plus importants. La France, je viens d'en parler. La Grande-Bretagne et l'Allemagne sont dans cette situation-là. Mais eux ont repris une partie de la dette. Et en Grande-Bretagne, alors là, ils ont tout vendu. Et il se passe un petit peu ce qui s'est passé au moment de la nationalisation de la SNCF, des compagnies privées. Les compagnies privées, en 1937, avaient une dette telle qu'il a fallu nationaliser. Et ça a coûté, à l'époque, 50 milliards de francs. Vous voyez ? Donc c'est pas d'aujourd'hui que la dette traîne. Hein ? Et puis on ne peut pas parler des coûts de nos petites lignes avec cette dette. Il y a un système en France qui est un système extrêmement intéressant, qui est la péréquation. C'est-à-dire que les partis qui gagnent le plus aident les partis qui gagnent le moins. Et c'est comme ça que ça doit fonctionner. Et les services publics, c'est leur rôle. C'est pourquoi, jusque-là, tant bien que mal, les services publics avaient été maintenus en milieu rural.
On va revenir sur la manifestation de demain, par contre, qui aura lieu donc à partir de 18h à la gare de Die. Vous envisagez de quelle action pour cette journée ?
On va tout casser. Non, c'est pas vrai. Parce qu'on est...
on aime bien la gare, quand même.
Ouais, voilà, on aime quand même bien la gare, donc on ne va
demain,
pas la casser.
Demain, vendredi à 18h, donc rendez-vous à la gare de Die pour une mobilisation citoyenne, forcément. L'idée, c'est de prendre que toutes les personnes qui sont impliquées dans ce combat prennent la parole. Donc il y aura le collectif Gare à nous, il y aura donc la section du Parti communiste de Die, il y aura un représentant de la CGT, il y aura un représentant du collectif de Vennes, un représentant du collectif de Clèle, une conseillère régionale. Donc toutes ces personnes vont prendre la parole et d'autres peut-être dont on ignore la présence encore. Voilà, l'idée c'est vraiment d'échanger ensuite autour d'un apéro partagé.
Pour nous, c'est le début de quelque chose. Donc, c'est vraiment d'essayer de construire une opposition à cette logique
funeste, qui nous
dit que de toute façon, c'est pas la peine de lutter parce que c'est déjà foutu. Alors que nous, des propositions pour améliorer le train, on en a plein. On dit pas que le train actuellement marche super, etc. On dit que le train est essentiel et qu'il peut être beaucoup beaucoup mieux et que ça coûtera pas forcément plus cher.
Je reviens à cette question. Quelle sera la participation des autres gares desservies par cette ligne ? Est-ce que vous envisagez de monter une journée pour justement revendiquer cette ligne ?
Non, on va en parler demain.
Voilà, c'est ce que j'allais dire.
C'est une idée.
C'est le but de la manifestation organisée par le collectif,
oui.
De rassembler à la fois les initiatives et les idées. Donc, on verra demain ce qui sort de la tête des participants.
Il y aura aussi une manifestation, par exemple, du collectif de Clèle le lendemain. Sur un mot d'ordre, nous ne sommes pas des usagers de troisième classe, puisque l'autocar, c'est un peu la troisième classe qu'on recrée, hein, et où ils vont essayer de tous rentrer dans le bus qui est censé remplacer la ligne de train avec des vélos, des gens en fauteuil roulant, etc., pour bien montrer qu'il y a une déperdition de qualité gigantesque quand on passe au tout bus.
En face de vous, je ne sais pas si vous avez eu des interlocuteurs qui sont dans ce projet de démantibulation de la SNCF. Vous avez affaire à des interlocuteurs vous-même, vraiment, par rapport à la représentation que vous êtes des usagers ?
Moi, je suis pour l'instant représentant de personne à part moi dans un collectif qu'on a créé il y a 15 jours. Donc, par contre, on va discuter à la gare, oui. Voilà, c'est nos interlocuteurs, mais à la limite... j'ai appelé Édouard Philippe, il ne me répond pas. Et par contre, la guichetière, elle discute avec moi, donc c'est plus pratique.
Mais au niveau des personnalités officielles ou des responsables de la SNCF, vous n'avez personne en face de vous.
En fait, il y a d'autres collectifs qui sont en lien avec des personnes de la SNCF. Il faut savoir aussi qu'il y a un comité de ligne qui a été créé, qui visiblement ne se réunit plus. Il s'agira peut-être, on en parlera demain, mais d'essayer de réactiver aussi ces canaux officiels. Après, il n'y a pas de mauvaise... mauvais endroit et de mauvaises méthodes pour avancer, hein. Donc c'est à faire.
Est-ce que en prenant le temps, en revenant bien en arrière, est-ce qu'il y a un manque d'ambition de la SNCF ? Je veux dire par là qu'elle n'a pas su se défendre entre les alternances de représentation politique au niveau des gouvernements successifs. L'un qui voulait mettre le réseau ferré comme moyen de transport en remplacement aussi du transport routier. Et puis l'alternance où on mise plus pour l'autoroute et le transport routier.
En fait, il y a une... Voilà, la SNCF, elle obéit à une logique... Elle croit plus au train, en fait. C'est-à-dire que quand elle fait du fret, elle le fait sur route. Quand le président, responsable, directeur, Guillaume Pépi, est interrogé sur les cadeaux de Noël qu'il aime faire à ses amis, il dit qu'il offre des billets d'avion. quand la SNCF organise elle-même une concurrence avec des autobus sur des lignes de train. Voilà, c'est la SNCF, en fait, il y a le F ferré, on se demande s'il est encore d'actualité. Oui. Il y a des pays qui font le choix inverse. Si on y revient, la Suisse, elle choisit de taxer les poids lourds, d'arrêter la construction d'autoroutes depuis 30 ans et de privilégier l'efficacité du train plutôt que la vitesse. C'est-à-dire qu'en fait, on n'attend jamais plus de 10 minutes, un quart d'heure un train quand on est en correspondance, par exemple. Donc ce sont des choix. On peut, nous aussi, avec du retard, mais on peut faire cela et les adapter à nos situations géographiques et économiques.
J'ajouterais que la SNCF est le premier transporteur routier de France. Ça résume tout. Vous voyez, en voyageurs et en marchandises. Parce qu'on peut parler du transport de marchandises, hein, de la pollution engendrée par les camions, etc. Alors que le train n'est pas du tout polluant. Il y a bien cette volonté de, par exemple avec les cars Macron, de vouloir complètement court-circuiter la SNCF. Ça n'est pas le cas de tous les pays. La Suisse a été citée tout à l'heure. Du jour au lendemain, la Suisse a dit « on ne traversera plus notre territoire, il faudra monter sur le train ». Eh bien, voilà une décision courageuse. Et on a pu faire du ferroutage. Donc, il faut qu'on réfléchisse également au ferroutage. C'est très, très important. Et nous, est-ce que nous ne pourrions pas revendiquer cette possibilité? Vous savez qu'il y a plusieurs collectivités qui se battent pour le tunnel sous le Mont-Genèvre. Un tunnel ferroviaire, bien évidemment. Et si on arrivait à un tunnel ferroviaire sous le Mont-Genèvre, ça pose également le problème du développement de toute la ligne pour le trafic avec l'Italie, et y compris entre l'Italie, la France et l'Espagne. Vous voyez ? Donc, il faut bien avoir une vue à long terme. Ça supposerait l'électrification. Ça supposerait le doublement de la ligne. Et ils l'ont prévu quand ils l'ont créé. Puisque quand vous passez sous les tunnels, vous avez la possibilité de mettre une deuxième voie.
Si je comprends bien la démarche actuelle de l'État, donc de se désengager de la SNCF, puisqu'elle va être, je parle pour les transports régionaux du moins, les compétences vont être plus attribuées aux régions aussi pour la gestion des lignes.
En fait, je pense qu'il y a même la volonté de s'en débarrasser complètement. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais déjà que depuis c'était sous un gouvernement Jospin, je pense que ça avait été transféré aux régions. Donc, on a transféré aux régions les TER sans les sous. Là, je sais pas comment ça va se passer. Hein. On navigue un peu à vue. On est au début d'un conflit social énorme à la SNCF, mais il y a la volonté claire de se débarrasser d'à peu près. De toutes ces petites lignes pour elles sont des quantités négligeables, alors que pour nous, elles sont vitales.
Et la population ou l'usager des lignes n'a pas le droit au chapitre dans ces transformations. Est-ce que vous en avez connaissance de quelques groupes, mis à part des collectifs comme le vôtre, qui doivent certainement se créer dans toute la France?
Oui. J'ai pour ma part initié une pétition sur Internet. Et elle a recueilli, à l'heure actuelle, 3300 signatures, mais ça n'est pas le plus intéressant. Ce qui est le plus intéressant, ce sont les commentaires. Il y a une personne sur cinq qui a signé, qui a fait un commentaire, et qui a dit quels étaient ses besoins, et quels étaient des besoins collectifs également. C'est très, très intéressant à analyser. J'ai d'ailleurs fait des copier-coller de tout ce qui touchait aux usagers et ce qui touchait à la section sport nature, par exemple. Vous voyez, donc, il y a une volonté de la population. C'est pourquoi peut-être qu'un jour, le collectif fera appel à elle pour qu'il y ait un mouvement qui dépasse les initiateurs.
À propos de ce mouvement de grève à l'heure actuelle qui a débuté donc mardi, il semblerait que l'opinion française aurait tendance à à accréditer ce mouvement avec un pourcentage d'opinions supérieur chaque semaine. Est-ce que vous pensez que, d'après ce que j'ai lu, 76% des Français seraient d'accord avec ce mouvement de grève à la fin, en juin?
Bon, moi j'ai rarement un avis sur un sondage parce que je n'ai pas les compétences pour savoir comment il est fabriqué. Mais effectivement, on voit que ce qui était a priori annoncé comme cuit d'avance, c'est-à-dire que tous les Français étaient contre les cheminots qui étaient des profiteurs, etc., avalent pas cette pilule-là. Ils savent très bien qu'en fait, voilà, le profiteur, c'est quand même plutôt Bernard Arnault qui est la deuxième fortune du monde et à qui on a supprimé l'ISF. Donc la pilule est un peu grosse. Et puis il y a un contexte aussi social où en fait ça craque un peu de partout. Donc je pense qu'il y a... Il y a un ras-le-bol, un défaitisme aussi, ça c'est sûr. Mais ça, c'est à chacun de... C'est ensemble qu'on peut se retrousser les manches et arriver à combattre ce sentiment-là. Mais aussi, voilà, un ras-le-bol général, et c'est pas que sur la SNCF. Donc ça me surprend pas beaucoup si ce chiffre est avéré, quoi.
Voilà, c'est un journal satirique qui a sorti cet article hier, donc, concernant un sondage demandé par le gouvernement, hein, pour voir où il allait. Et puis, on parlait de désertification du monde rural, et le gouvernement, en parallèle, investit aussi sur une amélioration des villes moyennes pour accueillir une population, peut-être celle d'ici, hein, comme il n'y aura plus de transport. Est-ce qu'on peut y mettre un point de connexion entre ces deux faits?
C'est pas tellement les villes moyennes, ce sont les métropoles. On en est là. Hein,
non, mais là, il y a un plan d'investissement du gouvernement. Je crois que c'est de 2 milliards pour 200 villes à titre expérimental, ouais, sur la France. Est-ce que c'est une démarche qui est précurseur?
Quand on divise les 2 milliards par le nombre de villes moyennes, ça fait pas beaucoup.
Non. C'est certain.
Non, mais la métropolisation, c'est elle qui a, ouais, c'est les métropoles qui accaparent toutes les richesses, qu'elles soient économiques, en termes de transport, en termes culturels. Et c'est, on est sur un territoire qui est où la décentralisation a quand même complètement raté. C'est-à-dire qu'il est complètement, il y a une inégalité criante entre les territoires. Et voilà, le Diwa est dans ce contexte-là. Après. Il n'y a pas de fatalité, on n'est pas très loin de Valence, on n'est pas très loin de Grenoble, et on a encore des trains, on a encore un hôpital. Et la France est encore citée en exemple pour ses services publics, même si on voit qu'en fait, ça devient un combat de tous les jours. Donc voilà, en même temps c'est général, hein. En Europe c'est pareil. Et ça c'est aussi, on peut le rattacher au transport, c'est-à-dire que la voiture individuelle favorise énormément la métropolisation l'agrégat de métropoles où on retrouve les logements, le travail et les richesses.
C'est un peu paradoxal, hein, sachant qu'il existe déjà beaucoup de transports en commun dans des villes, même des villes moyennes. Alors investir pour qu'une population véhiculée d'automobiles vienne s'installer en plus, c'est un petit peu du non-sens quelque part.
Ben, c'est-à-dire qu'en fait, on construit plus beaucoup de lignes de train de proximité, on construit des TGV. Par contre, on construit beaucoup d'autoroutes et de rocades. Et voilà, plus les supermarchés sont accessibles en voiture, plus les gens n'habitent plus à côté du petit commerce qui va chez qui ils allaient, plus les petites villes, comme dit, se désertifient. Parce qu'en fait, elles sont plus accessibles, elles sont plus attractives. Encore une fois, le train remet un peu plus à niveau quand même les modes de déplacement et permet à des endroits qui étaient moins habités et moins vivants de retrouver une dynamique.
Moi, je voudrais revenir sur cette idée que c'est la Commission européenne qui a décidé que on allait ouvrir à la concurrence, qu'on allait privatiser, etc. Et que la France qui est encore un modèle, comme vous le disiez tout à l'heure, eh bien non, pas du tout. Vous savez qu'avant chaque réunion de la Commission, il y a le Conseil des ministres européens qui se réunit. Et de qui est-il composé? Des présidents de la République et des premiers ministres. Et ce sont eux qui disent à la Commission, vous ferez ci, vous ferez ça. Vous voyez ? Donc il ne faut pas exonérer. Alors certes, l'Europe a toutes ses responsabilités, mais il ne faut pas exonérer la responsabilité de chaque État.
Pour les personnes qui voudraient participer à votre collectif, quels sont les moyens donc de vous joindre?
On essaye de tracter sur le marché, donc déjà on peut se rencontrer en vrai. On n'est pas sur un territoire immense, donc
demain à 18h.
Demain à 18h déjà.
Oui.
Voilà. Après on a un mail, on a un blog. Alors le mail je peux le donner à l'antenne, hein, je ne sais pas.
Tout à fait, oui.
Alors c'est gare à nous sans S puisque le S était pris. Donc c'est gare à nous nou@gmail.com. Et on a un blog qui est garanou.unblog.fr, quelque chose comme ça. Ça se trouve sur des moteurs de recherche.
Par rapport à l'économie locale du Diwa, est-ce qu'elle n'a pas su aussi utiliser le train, ou est-ce qu'elle utilise le train de marchandises pour sa production, s'il y en a une?
La gare de fret a été fermée,
oui.
Déjà il y a quelques années, a dit.
Si vous voulez, moi j'ai vu le fonctionnement de cette ligne, et j'ai vu passer des trains de marchandises. Vous savez d'où ils venaient, qui c'était? C'était les wagons de Péchiney-Eugène Kuhlmann, parce qu'à Largentière-Labessée, ils avaient une usine d'extraction. Donc c'est lié à l'économie. Dans la mesure où on développe l'économie, on développe les voies de circulation. Et inversement, réciproquement, je dirais, les voies de circulation aident l'économie et les services publics aussi.
Et encore une question un peu naïve, peut-on envisager une gestion quasi autonome de la SNCF, c'est-à-dire si par exemple les communautés de communes qui seraient sur ces lignes participaient à au moins aménager une ou deux lignes quotidiennes pour le transport des personnes?
Il faudrait changer le droit, hein, puisqu'elles ne sont pas compétentes aujourd'hui, les communautés de communes, la compétence est régionale ou nationale.
Oui, puis on a vu ce qui s'est passé en Angleterre. Hein. Quand ils ont privatisé, il y a eu plusieurs opérateurs, il y a eu des procès, y compris pour les aiguillages, et puis on se souvient du nombre d'accidents qui ont eu lieu parce qu'il n'y avait aucune coordination. Donc il ne faut pas mettre ce petit doigt dans l'engrenage.
En fait, tout dépend du cadre. S'il y a un cadre de service public très contraint... Après, on peut imaginer que des Comcom ou des régions, ou, peu importe. S'il y a une notion de service public qui gouverne l'ensemble et qui assure l'intercommunalité, enfin, toutes les missions de service public qu'on connaît, pourquoi pas? Enfin, limite, c'est presque pas si important que ça. Le problème, c'est que là, on propose juste une jungle. On ne propose pas du tout un nouveau cadre de service public.
Eh bien, je remercie donc Lucille, Jean-Pierre et Gaëtan d'être venus nous parler de cette manifestation pour donc vendredi 6, c'est-à-dire demain, à 18h au guichet, enfin à la gare de Die. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Merci à vous aussi.
Au revoir.